Vous écoutez RFI, il est 21h, ici à Paris, 19h en temps universel. Allez, Marion Cazeneuve à mes côtés. Marion, dans 10 minutes, votre décryptage. La Baltique, ni d'espions, mais pour l'heure, le journal. Bonsoir Marion.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, la guerre commerciale de Trump. La bourse de New York continue de reculer. Le président américain maintient ses surtaxes contre la Chine, mais a suspendu celles contre le reste du monde. En réponse, l'Union européenne met aussi en pause sa riposte et préfère négocier. Une étape importante. Le Hamas salue le projet de la France qui pourrait bientôt reconnaître l'État palestinien. Cette annonce d'Emmanuel Macron hier continue de faire réagir. Dans ce journal également, cet outil développé par le Royaume-Uni pour prédire et empêcher des crimes, des homicides. Et puis en France, la relaxe pour une enseignante accusée de harcèlement sur 3 élèves, dont l'une, Evaël, s'était suicidée en 2019. L'avocate des parents d'Evaël dénonce ce soir une décision inadmissible. La bourse de New York poursuit sa chute en raison de la guerre commerciale du président américain. Le dollar perd aussi de la valeur, moins 2% face à l'euro. Donald Trump maintient sa surtaxe de 145% contre les produits chinois et Pékin maintient aussi sa riposte, 84% de tarifs douaniers. Tout cela aura un coût et posera des problèmes, admet Trump, qui en revanche a lâché du lest sur les autres pays du monde dans un volte-face spectaculaire. Il a suspendu ses droits de douane contre le reste de la planète pour 90 jours. L'Union européenne a donc rendu l'appareil à Washington. Elle met sur pause sa riposte et tente, Anne Verdaguer, de rester unie pour répondre à un Donald Trump toujours imprévisible.
Il faut laisser une chance à la négociation d'aboutir, disent de concert les dirigeants européens, et ils possèdent plusieurs atouts dans leur manche. L'approche tout d'abord patiente jusqu'à présent et qui privilégie une solution négociée avec les États-Unis. Donald Trump a d'ailleurs sans doute contribué à consolider le bloc européen en annonçant 20% de droits de douane à l'ensemble du vieux continent au lieu d'agir pays par pays. Les 27 qui pourraient aussi actionner un puissant levier de négociation, la taxation des GAFAM et de leurs services numériques. Toutes les options sont sur la table, a dit la présidente de la Commission européenne. Le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, est, dit-elle, en contact permanent avec ses homologues américains. Mais la voie diplomatique n'a pour l'instant pas porté ses fruits. Donald Trump a rejeté la proposition zéro pour zéro tarif, réitérée ce jeudi par Ursula von der Leyen. Et les risques de division existent aussi au sein de l'Europe, car tous les pays n'ont pas le même niveau d'échanges commerciaux avec les États-Unis.
Et ce soir, Donald Trump se félicite de la réaction européenne qui, dit-il, a été très intelligente. Cette guerre commerciale lancée par le président américain est un cadeau d'anniversaire empoisonné pour l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, fête aujourd'hui ses 30 ans d'existence. Et regarde, impuissante, le président américain défère toutes les règles qu'elle a contribué à mettre en place pour réguler les échanges mondiaux. À Genève, la correspondance de Jérémy Lanche.
C'est comme pendant le Covid, tout le monde s'en fichait de l'OMS. Donc là, tout le monde s'en fiche un peu de l'OMC.
C'est ce qui s'appelle un constat sans appel. Cédric Dupont est professeur de relations internationales au Graduate Institute de Genève. Son bureau est à 500 mètres à vol d'oiseau de l'OMC. Elle devrait être au cœur du bras de fer sur les droits de douane américains.
Vous écoutez les ministres différents, ils sont tous en train d'essayer de négocier avec Washington, enfin, voir ce qu'ils peuvent faire à Bruxelles ou ce qu'ils peuvent faire à Pékin. Mais l'OMC, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens dans les couloirs.
D'après l'OMC, l'offensive de Trump va faire baisser de 1% le volume des marchandises échangées dans le monde en 2025, en contradiction totale avec les engagements pris par les États-Unis à l'OMC.
Ce qu'ils font est déjà illégal. S'ils ont un problème avec des États, ils doivent en parler au sein de l'OMC. Ils le font pas. Pour eux, l'OMC n'existe pas.
Et Washington bloque par ailleurs le renouvellement des juges de l'organe d'appel de l'OMC, chargé de traiter les différends entre États. L'OMC paralysée, ignorée, court-circuitée, mais pas complètement morte pour autant.
85% du commerce ne passe pas par les États-Unis. Donc le reste du monde pourrait se dire, ok, ça on va le régler peut-être en dehors, mais on va garder l'OMC pour stabiliser les 85% du commerce.
Donald Trump n'a pas manifesté son envie de quitter l'OMC, mais l'hypothèse est jugée crédible par des diplomates qui se gardent bien de dire ce qu'il adviendra alors de l'organisation. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
L'OMC qui a publié hier quelques projections sur cette guerre commerciale diviser l'économie mondiale en deux blocs, États-Unis contre Chine, pourrait réduire selon elle de presque 7% le PIB mondial. Un changement en vue dans la diplomatie française. Le président Emmanuel Macron pourrait décider de reconnaître l'État palestinien en juin. Il l'a dit lui-même hier, il pourrait en faire l'annonce lors d'un sommet à New York co-présidé avec l'Arabie Saoudite. Et ses propos font réagir dans la région, au Proche-Orient. Une telle reconnaissance serait une récompense pour le terrorisme, dit Israël. Le groupe islamiste Hamas, de son côté, parle d'une étape importante. L'armée israélienne poursuit quant à elle son offensive à Gaza, mais fait aussi le ménage. Elle renvoie près de 1000 réservistes qui ont signé une lettre contre la guerre dans l'enclave. Cette lettre, publiée aujourd'hui, réclame le retour des otages, même si cela doit signifier la fin de la guerre à Gaza. La Russie revendique de nouvelles avancées en Ukraine. Elle dit avoir pris le contrôle d'un village dans la région frontalière de Soumy, dans le nord-est. Une journée marquée une nouvelle fois par des bombardements. Un mort à Dnipro, dans le centre, et 27 blessés. Des blessés également signalés à Nikopol, dans la même région, ou encore dans celle de Mykolaïv, dans le sud. La Russie mène aussi une sorte de guerre hybride dans les abysses de l'Atlantique. Une enquête récente du Sunday Times révèle que des capteurs russes ont été découverts dans les eaux britanniques. On parle de cette guerre sous l'Atlantique dans le décryptage, juste après ce journal.
RFI, la radio du monde.
Au Royaume-Uni, le gouvernement crée un outil de prédiction des crimes, un projet lancé en 2023, développé par une ONG de défense des libertés. Et cet outil utiliserait des données concernant des personnes à risque pour prévoir un possible, voire probable passage à l'acte. La correspondance à Londres d'Emeline Vin.
Le ministère de la Justice parle de partage de données à des fins d'évaluation des risques, mais le programme s'appelait initialement « Projet de prédiction des meurtres ». Le principe, utiliser les données relatives aux personnes connues des autorités, entre 100 et 500 000 citoyens, pour établir leur probabilité de commettre des violences. Des personnes condamnées ou citées dans des enquêtes, mais aussi des victimes de violences conjugales, par exemple. Parmi les données compilées, l'identité, le nom, l'âge, le genre, l'ethnicité, le dossier judiciaire, médical et les facteurs de risque génétiques, le gouvernement assure qu'il s'agit d'un projet de recherche pour l'accompagnement d'ex-détenus à risque de récidive. Mais l'ONG Statewatch, à l'origine des révélations, dénonce le manque de transparence, le recours à des données de personnes vulnérables et surtout, elle craint que l'application de ce modèle, qu'elle qualifie de dystopique et effrayant, n'amplifie les discriminations envers les minorités, par exemple, à cause de l'utilisation des dossiers de police, alors que les personnes noires restent 3 à 5 fois plus susceptibles d'être contrôlées que les personnes blanches. Emeline Vin, Londres, RFI.
RFI 21h07 à Paris, 19h07 en temps universel. En France, une enseignante relaxée après avoir été accusée de harcèlement sur 3 élèves, dont une, Eva L, qui s'était suicidée en juin 2019. 18 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer avaient été requis par le ministère public il y a un mois contre cette professeure de français. On lui reprochait notamment d'avoir attisé ce harcèlement qu'Eva L subissait par ses camarades. Mais le tribunal a donc estimé que l'élément intentionnel du harcèlement n'était pas caractérisé. La professeure est donc relaxée. Une décision révoltante pour l'avocate des parents d'Eva L, Delphine Meillet.
La détresse d'Eva L avait été méprisée lorsqu'elle était dans cet établissement. C'est pour ça qu'elle en avait changé. Elle a encore été méprisée aujourd'hui, cette douleur. Les parents qui ont lutté pendant des années pour leur fille ont été méprisés et aujourd'hui ils sont insultés. Ce qui est juste inadmissible au regard des faits qui ont été développés et au regard du comportement de cette professeure qui était froide, sans une once d'humanité, lors de toute cette audience et également, évidemment, à l'égard d'Eva L, pour lesquelles elle était renvoyée. Elle était tout de même renvoyée pour harcèlement moral concernant 3 élèves. C'est la première fois qu'un professeur est renvoyé pour harcèlement moral à l'égard d'un harcèlement qu'il faisait subir à ses élèves. La décision d'aujourd'hui est inadmissible.
L'avocate des parents d'Eva L, Delphine Meillet, propos recueillis par Baptiste Coulon. L'enseignante en question a quant à elle partagé son soulagement. La vérité éclate enfin, a-t-elle réagi à l'annonce du verdict. Le footballeur Kylian Mbappé ne cédera pas face à son ancien club. Il fait saisir à titre conservatoire plus de 55 millions d'euros dans les comptes du PSG, soit le montant des salaires et primes impayées par le club qui avait été vexé du départ de l'attaquant pour le Real Madrid. C'est un revers pour le PSG qui nie toute infraction dans ce litige et qui voit cette somme donc immobilisée. sur ses comptes. Les prud'hommes vont également être saisis de l'affaire. À noter, Kylian Mbappé se joint aussi à une plainte du syndicat des joueurs français pour harcèlement moral concernant la pratique du loft, pratique qui met à l'écart des joueurs. C'est la fin de ce journal, bientôt 21h10 à Paris, 19h10 en temps universel. Restez avec nous sur RFI. Dans 20 minutes, un nouveau journal d'actualité africaine et dans quelques secondes, le décryptage.